Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Un autre coin du geek cette semaine avec coach Charles Castonguet qui nous parle du relâchement myofascial. J'espère que c'est la bonne affaire que je viens de dire. Bref, il va vous le confirmer dans les prochaines minutes. Qu'est-ce que c'est, premièrement? Et comment le faire? Vous pouvez penser peut-être à vous rouler des rouleaux, des guns à massage, des balles. Bref, il nous explique qu'est-ce qui est scientifiquement prouvé, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est la chose à faire, qu'est-ce qui sont les recommandations, quelles sont les recommandations, devrais-je dire. Bref, si vous roulez chez vous le soir, c'est une conversation extrêmement intéressante parce que ça va vous expliquer pourquoi vous le faites, et comment mieux le faire. Et si vous ne le faites pas, ben, peut-être commencer à le faire, ce serait une bonne alternative. Le podcast est présenté par Upika. Retour complet d'inventaire, Upika, je l'ai dit la dernière fois qu'on était sur le coin du geek, mais on a toutes nos gammes de produits, en fait. Allez au upika.ca, utilisez le code promo Upika Podcast pour 10% de rabais pour votre première commande, et sautez là-dessus comme sur des petits pains chauds, parce que on risque de plus avoir de problème d'inventaire, en fait. Fait que là, j'essaie de faire de la vente sous pression, sans aucune pression. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Fait que bon coin de geek. Ça roule!
Ça roule.
Coin du geek. Un petit sujet rapide.
Un petit sujet aujourd'hui. Plus expéditif. Je suis pas vraiment bon dans être expéditif.
Dans l'expéditif. On va voir qu'est-ce qui se passe.
On va essayer de faire ça court. Short and sweet. Pour celui-là, j'ai décidé de vous amener un sujet que je connais quand même assez bien. J'ai pas eu trop de recherches à faire cette fois-ci, malgré qu'il y a beaucoup de contenu scientifique pareil. L'automassage avec rouleau ou balle.
Ouais.
Ou communément appelé dans le milieu un peu plus calé, on va dire, le relâchement myofascial. En anglais, le myofascial release. Est-ce que tu en fais, toi? Je vais connaître ta réponse. C'est pas assez, probablement, mais tu peux y aller.
Ouais, pas assez, probablement, que j'en fais pas assez, mais honnêtement, depuis que je fais depuis que je m'entraîne pour du triathlon, j'ai comme... Je fais plus rien vraiment en périphérie autre de mon ça. Entraînement.
Intéressant.
Puis, je me suis jamais senti autant... On pourra en reparler éventuellement, mais je me suis jamais senti autant pas blessé, autant complet,
okay.
Autant bien balancé
ouais.
Que en faisant ce type d'entraînement-là.
Okay. Fait que toi, mettons le myofascial release ou l'automassage, t'associes ça à la récupération, prévention de blessures.
Prévention de blessures, okay. Tension, relâchement des tensions, puis aussi genre le break glass in case of emergency, là, quand tu commences à ressentir une blessure puis que tu trouves la bandelette. Là,
ouais.
C'est pas mal ça, mais ouais. Quand je faisais les entraînements marathon, je le faisais presque à tous les soirs. Là.
Est-ce que tu associes ça à la multidisciplinarité de ton sport, on va dire? Donc, la variabilité qui amène ton sport, qu'il y a plus de groupes musculaires impliqués dans différents sports,
Un genre de mélange entre ça, le fait que tous les sports sont complémentaires, que le vélo, quand tu pousses des watts, c'est de la musculation, quad, ischio, mollet, toute la chaîne postérieure. Puis la course à pied après ça, t'as ce renforcement-là peut-être.
Ouais, ouais.
Mais aussi que la natation, ça me fait m'étirer. Ça me rend flexible.
Ah, okay.
Ça fait que je m'allonge.
Intéressant.
Puis ça, quand je nage pas, je le sens dans ma vie. Là. Quand je nage pas, je le sens.
OK, intéressant. Puis toi, dans le fond, tout ça, ben, tu sais... Mettons le relâchement myofascial ou l'automassage avec rouleau et balle, tu t'as mis un peu ça de côté justement.
Ouais, j'ai mis ça de côté.
À cause du
volume d'entraînement. Mais là, tu sais, mettons, hier soir, j'avais un gun, puis pendant que j'écoutais La télé, je me massais avec un gun. Là,
intéressant. Ouais. Puis justement, on va en parler justement des fusils à massage parce que c'est rendu la grosse mode. Est-ce que c'est aussi efficace, etc., que l'automassage? Bon, pour les gens qui ne connaissent pas ça, on va parler de relâchement myofascial. Donc, quand on parle de myofascial, on parle du muscle. J'ai pas besoin de donner de définition pour muscle. Je pense que les gens connaissent en général. S'ils écoutent le podcast, ils savent c'est quoi un muscle. Le fascia, par exemple, qu'est-ce que c'est le fascia? Ben, c'est une membrane fibroélastique qui recouvre le muscle, en fait, ou une structure anatomique, on va dire, qui est faite de tissus conjonctifs très riches en collagène. Souvent, les fascias vont s'interconnecter dans les groupes musculaires. Fait que, mettons, les quads vont se connecter vers le genou, vers le tibial antérieur, dans leur fascia. Donc, c'est plus une membrane qui est un peu continue, qui part du muscle, va vers le tendon, l'os, etc. Donc, c'est comme une membrane qui interconnecte un peu tout.
Ouais.
Et ça a été montré qu'ils sont capables même d'élasticité, de se contracter, d'offrir un certain dynamisme dans l'action musculaire ou dans l'activité musculaire en tant que telle. Et que, justement, leur innervation sensitive participe à la proprioception de tes muscles dans l'espace et à la nociception aussi, c'est-à-dire... tu parlais de tension musculaire tantôt, etc. Donc, les fascias auraient un rôle à jouer aussi dans ce facteur de raideur-là. Je me sens tendu, je me sens douloureux, etc., etc. Et justement, comme je le disais, ben, s'il y en a qui s'intéressent justement aux fascias, ben, il y a l'auteur très, très connu, Thomas Meyer, dans son livre de Anatomy Trains, qui parle de toutes les chaînes musculaires, de toutes les fascias qui s'interconnectent entre les différents muscles, qui sont très intéressants à aller voir. Donc, si ça vous intéresse comme sujet, allez voir cet auteur-là. Il est quand même assez réputé. Il n'y a pas beaucoup de références scientifiques dans ses ouvrages, malheureusement, mais c'est quand même intéressant à lire de façon générale. Donc, à quoi ça sert le relâchement myofascial ou l'automassage avec balle et rouleau? À quoi ça sert selon toi?
Ça sert à, j'imagine, relâcher des tensions. Parce que c'est quoi une tension?
Exact.
C'est une bonne question.
Ben, c'est ça. J'allais dire que la culture populaire nous fait penser que ça sert à ça.
C'est ça.
Souvent, j'entends parler de défaire les adhérences, défaire les nœuds musculaires. C'est quoi, justement, ces nœuds musculaires ou ces trigger points qu'on dit en anglais? Ben, c'est des petites zones musculaires qui ressemblent justement à des zones douloureuses. Des fois, quand on passe notre main, notre doigt, on sent que c'est plus rugueux en plus. Tu sens une tension. Puis là, il y a comme une texture qui est un petit peu différente. Ouais. Ben, ça peut ressembler à ça. Il n'y a pas vraiment de comment je pourrais dire, de définition spécifique au nœud musculaire parce qu'on ne le prouve pas vraiment selon la science.
C'est
comme une accumulation de tension à un endroit très précis. Les adhérences, par contre, définition un peu plus claire, c'est une connexion fibreuse atypique entre le fascia et la couche musculaire. Normalement, le fascia, il est comme plus spread là, sur ton muscle, il est assez lisse. Il y aurait certaines actions musculaires, certains traumatismes qu'on a qui vont le faire un petit peu s'agglomérer dans certaines régions, qui vont se coller un peu plus aux muscles.
Donc,
les cicatrices,
si tu
par exemple.
Si tu le rouler, tu es capable de l'étirer sur...
Défaire ces adhérences-là. Puis tu sais, souvent, comme on dit, j'ai une grosse coupure, j'ai mon muscle qui a été affecté, il y a du tissu de cicatriciel qui va s'agglomérer, qui va refermer justement la plaie, mais qui va faire un peu cette adhérence-là, là, parce que les fibres vont être mal alignées, etc. Donc, ça va créer des zones de tension. Et là, il faut masser pour défaire, selon la culture populaire, ces adhérences-là en particulier. Par contre, ça a été justement un peu prouvé que ce qu'on nomme comme des adhérences musculaires ou des nœuds, etc., ben, ça peut causer chez les gens qui disent en avoir des douleurs chroniques. Des diminutions d'amplitude de mouvement. De vraiment, mettons, j'ai un nœud, je sens que j'ai un nœud dans le cou, dans le trapèze, mais tu sais, j'ai de la misère avec mon cou, à bouger mon cou, mon épaule, etc. Même des douleurs référées, tu sais, des fois, j'ai des nœuds, puis quand j'utilise ça, je veux pas me faire lancer des roches, encore une fois, c'est vraiment en gros guillemets, c'est juste pour dire.
C'est comme ça qu'on l'appelle. Là.
Comme ça, là, tu sais, en général, que les gens l'appellent quand ils viennent nous voir. Ben, ça peut créer des douleurs référées aussi. Fait que là, je sens que j'ai un nœud, tu sais, dans le cou, mais ça défend jusque dans mon omoplate, descend dans mon dos, etc. Et puis, ça m'a même causé des dysfonctionnements articulaires en général. Tu as de la misère à bouger. Tu ressens de la douleur. Il y a beaucoup de gens qui s'associent aussi aux sensations nerveuses. Ils sentent qu'ils sont pinchés un nerf un peu des fois. Puis, comme je disais, là, il y a même des engourdissements, des picotements qui viennent avec ça. Donc, peut-être des symptômes un petit peu plus nerveux. Ça apparaît où souvent, là, ces nœuds musculaires-là ou ces tensions musculaires-là? Ben, souvent dans les gros groupes musculaires. Fait qu'on parle des mollets, les ischio-jambiers, les quads en avant, le bas du dos. Tu sais, ça peut être dans les muscles lombaires, les grands dorsaux, les trapèzes, justement, tu sais, les gros muscles qu'on a au niveau du cou, au niveau de l'omoplate aussi, les rhomboïdes, etc. Tu sais, entre les deux omoplates, on sait qu'on a des points. Au niveau des pecs, etc., etc. Donc, ça peut causer quand même beaucoup de tension et d'inconfort en général. Et on est capable d'associer là, les nœuds musculaires ou les tensions musculaires qu'on essaie de relâcher justement avec le myofascial à plusieurs causes, des risques de facteurs, tu sais, les postures, des activités sportives trop répétées intensément. Si je ne suis pas un coureur puis que je vais courir 50 kilos demain, ben, je vais sentir ces tensions-là, etc., qui pourraient être réglées selon plusieurs personnes par l'automassage, etc. Mais juste le stress ou un traumatisme sur un muscle, t'sais, l'état émotionnel, ça peut causer quand même des tensions. Donc, l'automassage pourrait avoir un espèce d'effet sur tous ces facteurs-là qui nous causent ces tensions-là. Mais comme on est chez le podcast Upika Geek, ben, on va parler plus du domaine sportif en particulier. Donc, souvent, les tensions qui vont être dues à une activité qui va être répétée un peu de façon abusive ou, on va dire, un patron moteur. Dans le précédent, on disait que la technique en course à pied, ça avait moins d'importance, mais on va dire que si ça a une importance, ben, tu as déposé ton pied de telle façon, ça allait irriter ton mollet, etc. Ouais. Fait que là, tu as la tension qui s'accumule à cet effet-là. Donc, c'est quoi les effets aigus, justement, de l'automassage sur le corps en général, sur les articulations? T'as-tu une idée de ça?
C'est une excellente question. C'est sûr que ça s'apparente sans doute aux effets d'un massage sportif, mais ça veut dire faire circuler peut-être le sang à l'intérieur des muscles.
Il y a un petit peu de ça, on en parlait tantôt.
Je suis plus ou moins vendu en fait d'avance
intéressant.
Par ça.
Intéressant.
Parce que même si toutes les fois que je l'ai essayé ou toutes les fois que je l'ai fait de façon plus constante, ça n'a jamais vraiment changé quelque chose. Fait que, je te relance la balle. Vas-y, explique-moi.
Ben, le premier facteur qui est très intéressant en faisant justement du massage avec rouleau, avec balle, c'est l'augmentation de l'amplitude articulaire. Et ça, c'est presque indéniable. Il y a tellement d'évidence là-dessus qu'on ne peut pas nécessairement le contredire. Bon, il y a, comme toujours, certaines études qui vont prouver le contraire, mais bref, la grande majorité nous disent que ça va augmenter l'amplitude articulaire. Justement, j'ai sous les yeux là, une étude de Wiki et BEM et collaborateurs, justement, de 2019, une grosse méta-analyse, justement, qui étudiait là, tout ce qui s'était fait au niveau des rouleaux, des balles, et qui disent indéniablement que ça va augmenter ton amplitude articulaire. Pourquoi c'est important, l'amplitude articulaire? C'est que quand on a des tensions, ben justement, par exemple, au mollet, ça peut diminuer l'amplitude de ta cheville. Quand j'ai des tensions à la hanche, par exemple, je ne sais pas, au quad, au psoas, etc., ben ça peut diminuer ta capacité de flexion, d'extension au niveau de la hanche. Donc, ça peut modifier ton patron moteur, diminuer ta performance. Donc, ça pourrait être bénéfique. Même quand tu fais du gym, on va en parler un petit peu tantôt, mais tu sais, d'augmenter ton amplitude articulaire avant l'activité, ça pour être quand même assez intéressant. Justement, on observe, comparé à certaines études qui vont dire que les étirements, ça peut affecter la performance, bien, on n'aurait pas de problème entre se rouler et affecter la performance. Donc, par exemple, je décide de...
Il n'y aurait pas de point négatif.
Exactement, je décide de me rouler le mollet parce que je suis en petite tension avant d'aller courir, à moins que je le fasse pendant 15 minutes, mais ça, c'est un autre problème qu'on pourra discuter tantôt. Il n'y aurait pas d'effet négatif à le faire avant d'aller courir. Donc, il n'y aurait pas de perte de performance au niveau excentrique, concentrique, isométrique dans les tests qu'on fait. On est capable de développer la même force, la même tonicité, et on aurait le sentiment ou l'impression qu'on a perdu cette tension-là. Puis ça a été bénéfique au niveau de mon amplitude articulaire et tout. Fait que je dirais que, en gros, là, l'amplitude articulaire, c'est vraiment le facteur numéro un qu'on va aller chercher à ce niveau-là. Si je continue avec une étude de Conrad et collaborateurs de 2022, il a fait une analyse justement de 11 études, de presque 300 participants, qui lui aussi va conclure que l'amplitude articulaire va être améliorée de façon drastique, que les bénéfices sont un petit peu plus importants sur un long terme aussi. Donc, quand j'ai une tendance à en faire un peu plus souvent, pendant, lui parle au moins 5 semaines, ben, les résultats vont être encore plus prometteurs. Donc, on parle de 2 à 5 séances par semaine, par exemple. Ça peut être des courtes durées quand même, on en parlera un petit peu plus tard. Sur les gros groupes musculaires, ça aurait plus d'impact. Fait que si je décide d'aller faire de l'automassage de mon obturateur interne de la hanche, ben, il y aurait peut-être un peu moins d'impact sur la globalité de mon corps que la fesse ou les ischio-jambiers, etc. Et voilà. Donc, Il y a aussi un phénomène qu'on va attribuer aux DOMS, qu'on appelle. Est-ce que tu connais les DOMS? C'est les Delayed Onset Muscle Soreness, donc un peu le raquage musculaire. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va observer justement chez des participants d'études, j'ai celle devant les yeux de 2024 de Zhang et collaborateurs, qui vont cocher sur la Visual Analog Scale, donc une échelle de perception de douleur. Ouais. Pour un groupe, par exemple, après l'entraînement qui a fait le relâchement myofascial, les rouleaux, etc., sur les gros groupes musculaires versus ceux qui ne l'ont pas fait, eh bien, ceux qui en ont fait vont coter
après l'effort.
Un raquage musculaire qui va être moins grand. Et là, on
ceux
parle
qui en ont fait tout de suite après l'effort?
Tout de suite après l'effort. Okay. C'est en récupération, ouais. En mode récupération, 24, 48 et 72 heures plus tard. Donc, vont cocher du DOMS ou du raquage musculaire qui
plus
va être
faible.
Un petit peu plus faible. Ouais. Donc, on aurait une meilleure récupération par certains principes physiologiques des fois qui nous échappent. On pourra en parler un petit peu après, mais quand même selon la subjectivité de l'individu, ouais. A un bon apport sur ça. Donc, si on fait un espèce de résumé de qu'est-ce qui est evidence-based au niveau du relâchement myofascial, il y a un beau résumé de Glanzel et collaborateurs 2022 qui nous amène à ça. Donc, on parlait de l'amélioration de l'amplitude articulaire. Et, par exemple, ça n'aurait pas d'impact sur le tonus myofascial. Tu sais, on parle de raideur, je me sens raide, j'ai une tension. Mais par exemple, si il y a des petits instruments qu'on appelle, il y a une compagnie qui s'appelle Myotone qui fait ça. Là, c'est une espèce de bébelle que tu te mets sur le muscle.
Qui peut calculer
qui va mesurer justement la raideur par une impulsion qu'il va donner par une petite tige. Et on remarque qu'il n'y a pas vraiment de différence de tonus entre quelqu'un qui le fait et quelqu'un qui ne l'a pas fait. Et cet auteur-là, justement, il attribuerait ça plus à des mécanismes neuronaux. Donc, vraiment, un effet neuronal de faire le rouleau, par exemple, sur ton quadriceps, qui va peut-être relâcher la tension, entre guillemets, et augmenter l'amplitude articulaire. Mais au niveau de la tonicité, la raideur du muscle, ça ne change pas grand-chose, en fait. Ça, c'est très intéressant.
Oui.
Parce que
des fois, tu fais « Ah, je suis tight », c'est comme « Non, dans le fond,
ça change rien. » En fait, tu peux le sentir que tu es tight, mais le rouleau ne va pas améliorer la tonicité de la raideur de ton muscle, mais ça a un impact sur le neural qui, elle, va peut-être influencer justement ta perception de cette raideur-là et va améliorer justement ton amplitude articulaire. Comme je le disais tantôt, en résumé, là, on fait un petit résumé de cette étude-là, il n'y a pas d'impact sur la force, la vitesse, la précision des mouvements quand on le fait poste. Donc, si je me roule, par exemple, les quadriceps, puis que je vais faire un squat après, ben, je ne vais pas être capable de lever moins comparativement à des étirements selon certaines études qui pourraient affecter la performance en général. Donc, il n'y aurait pas d'impact négatif sur la force. Pourrait même, selon une étude que j'ai vue, améliorer la force concentrique. Donc, dans un groupe, justement, qui avait fait le relâchement avant un exercice, et un groupe qui ne l'avait pas fait, avait une meilleure force concentrique et une meilleure distribution de force des quadriceps sur des tests de force en isométrie. Donc, c'est assez intéressant.
Ouais.
Peut-être par, justement, le phénomène neural qu'on parle.
Tu t'actives.
C'est ça, on vient comme l'activer, ressentir son muscle. Et tu sais, moi, il y avait une vieille étude que j'avais lue.
C'est observé, mais on ne sait pas pourquoi.
Exactement. Il y avait une vieille étude que j'avais lue, justement, qui disait que de toucher un muscle augmentait sa contractilité sur, mettons, des gens qui touchaient leur muscle avant de le contracter versus des gens qui ne le touchaient pas. Ben, tu sais, juste le fait de le sentir, ça augmentait ta contractilité. Fait que peut-être que ceux qui n'ont pas des bons fessiers, parce que c'est un problème très répandu dans la société, ben, toucher votre fesse, puis essayer de la ressentir.
Après ça, tu vas faire un squat, puis là, tu vas savoir c'est où.
Exactement, tu vas le sentir un petit peu mieux. Ça aurait un certain impact. Post-entraînement, comme je le disais, ça pourrait atténuer les diminutions de performance et retarder justement le raquage musculaire, la perception des raquages musculaires. Donc là, on parle de avant, on parle de après.
Ouais.
Donc, il y a beaucoup de bénéfices. Hein. Des fois, on parle juste de tension musculaire, mais régler les tensions musculaires, mais finalement, il y a pas mal plus d'avantages qu'on pourrait le penser. Il y aurait, selon des études récentes de 2024, vraiment intéressant, il y aurait une diminution plus rapide et significative de la concentration de lactate sanguin post-effort pour un groupe qui aurait fait le relâchement myofascial, l'automassage et un groupe contrôle.
Okay.
Ça, j'ai vu ça dans trois études différentes récemment. Et c'est souvent 15 minutes. Les mesures, c'est 15 minutes et 30 minutes après l'effort.
Ouais.
Mais ça, c'est quand même intéressant. Puis ça, est-ce que, bon, ça active la circulation sanguine, ça te permet de flusher plus rapidement? Ça, j'ai de la misère à me l'expliquer encore.
Ouais.
Perso, je pense que si tu veux diminuer ta concentration de lactate, t'es mieux de faire un cool down.
Un cool down, un peu, relax, ouais.
Ouais, plutôt que de te rouler pour. Si t'as cet objectif-là.
Si t'as des épreuves à enchaîner, mettons, t'es mieux d'aller sur le vélo stationnaire puis spinner tranquillement. Exactement. Que de te rouler, mais ça peut faire puis, une bonne
différence. J'ai vu ça récemment, c'est drôle parce que j'arrive d'un camp en France puis je jasais avec un collègue entraîneur français en ski de fond. Puis lui, il me disait qu'un de ses collègues il avait participé à une étude qui était justement de la massothérapie ou des traitements de massothérapie après un effort. Il mesurait la concentration de lactate, puis il avait vu une bonne différence entre ceux qui avaient reçu la masso et ceux qui n'avaient pas reçu la masso. Puis, tu sais, juste après, j'ai lu ça pour le relâchement myofascial. Fait que les deux concordent un peu.
Sens,
sur le coup, je me suis dit, ouais, il me dit des niaiseries. Là, ouais. Il me dit pas des niaiseries, mais tu sais, bon, fais ton cool down, tant qu'à ça, si tu veux diminuer ta concentration de lactate. Mais en tout cas, il y aurait cet effet-là, peu importe ce que tu décides de faire après. Si
t'as
tu
pas l'occasion
ça,
de faire un cool down comme du monde, mettons, coupe universitaire de natation, où est-ce que tu as 4 épreuves à faire en dedans d'une heure et demie, puis il n'y a pas l'opportunité de faire du cool down.
Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être une option. Ça pourrait être intéressant aussi. Et un autre aspect qui est vraiment très, très approuvé au niveau scientifique, c'est l'amélioration de la tolérance à la douleur, qui est, au niveau sportif, extrêmement intéressante. Et là, je m'explique. Ouais. Plus tu es tolérant à la douleur, plus tu es capable de pousser ton corps loin, on s'entend. Ouais. Au niveau local aussi, sur un quadriceps, sur des fessiers, etc. Les gens qui font du relâchement myofascial, si tu leur demandes sur l'échelle analogue que je parlais justement de perception de douleur avant et après, si on leur met, et ça, je n'ai pas le nom de l'étude, mais j'en ai vu quelques-unes là-dessus, un espèce de dynamomètre où on va mesurer la pression qu'on va appliquer sur le muscle. On va essayer d'avoir la même pression. Mettons, j'applique, je sais pas, 100 newtons sur le muscle. Catégorise, c'est quoi sur 10 la douleur que tu ressens? C'est 6 sur 10.
Le monde qui font du relâchement, ils ont une perception plus faible de ça.
Exactement. Donc là, je vais faire mon
parce
relâchement.
Parce qu'ils se roulent, puis ils sont habitués à...
Et ça, c'est directement après. Donc, dans le fond, je te le fais avant, je me roule, puis après, je suis comme, ah, ben là, c'est rendu 2.
Ouais.
Même pression. Fait que c'est vraiment intéressant au niveau du neural, là, l'effet qu'on a. Ça, c'est vraiment neural. Tu sais, la perception de la douleur, les nocicepteurs, c'est neural. Un de mes collègues qui m'apportait Jonathan, qui m'apportait une explication à ça, ce serait peut-être la théorie du portillon qu'on appelle, qui veut dire que la stimulation sélective des fibres afférentes, et là, je rentre dans le neural avancé, la stimulation des fibres afférentes, donc un peu des nerfs périphériques sur le quad, par exemple, soulage la douleur en réduisant la transmission de l'information nociceptive directement à l'entrée de la moelle. Donc, de stimuler une grande partie de ton quad en roulant va un peu saturer l'information que tu envoies à ton cerveau sur le quadriceps et va te permettre de moins ressentir la douleur sur ton quadriceps après ou peu importe le corps. Donc, il y aurait comme une espèce de saturation nerveuse.
Qui ne le ressent plus. Là, il fait, là, j'en ai trop, je ne le sens plus rien. Là.
C'est ça, exact. Fait que là, tu es capable de pousser plus parce que, bon, tes quads, ben, tu es capable de les saturer à l'effort, on va dire, plus. C'est quand même vraiment intéressant comme phénomène.
Mais comment ça se traduirait, mettons, dans une performance?
Ben, comme je te le dis, je pense que pas que moins tu sens ton corps le mieux, mais plus ta perception...
Mais dans le sens, tu te roules avant d'aller faire ta course. Là,
ouais, mettons, plus ta perception de douleur pendant l'effort est diminuée, plus tu vas être capable d'aller pousser ton threshold de tolérance loin. Fait que, par exemple, sur un effort de 3000, de 5000, si tu as une perception de douleur musculaire qui est moins grande, selon moi, tu vas être capable d'amener ton corps à 1, 2% de plus de tolérance. Puis peut-être que pour un même VO2 max, pour une même économie de course, on en parlait, ben ça va peut-être faire la différence.
Entre,
une seconde, puis là encore, il y a des dizaines de facteurs, mais la perception de la douleur, je pense que ça peut avoir un immense effet sur la performance.
Ouais.
Probablement peut-être plus sur du cours.
Du cours, c'est là, ça, t'sais? Exact. Ouais.
Parce qu'on s'entend que sur un marathon, la perception de la douleur, elle s'installe très
tranquillement.
Très lentement.
Là,
sur un 800, sur un 1500, sur un 3000, quand ça te rentre dedans, tu le sens. C'est comme, ça allait bien, puis là, ça va plus bien. Là,
exact.
Fait que comment l'utiliser de façon efficace? Ben, selon ce que j'ai lu et selon ce que j'ai accumulé, minimalement, je te dirais une minute par muscle, ça pourrait être intéressant. Les gros groupes musculaires, on parlait des mollets, des ischios, des quads, les grands dorsaux, si tu fais de la natation, les pecs, etc., ça pourrait avoir un bon effet. Jusqu'à 2 minutes. Passé le 2 minutes, on n'a pas vraiment d'effet bénéfique supplémentaire à se rouler. Et... aussi, se rouler, là, ça, c'est un autre facteur qui est un petit peu plus intéressant. qui est un petit peu mitigé, mais qui est quand même intéressant, c'est l'interdépendance régionale qu'on appelle. En raison des fascias que je te parlais tantôt, qui sont un petit peu connectés entre eux, ben, rouler une partie du corps aurait de l'influence sur les autres parties du corps.
Okay, ouais.
Par exemple, se rouler les ischio-jambiers aurait peut-être une influence sur ta mobilité d'épaule.
Ouais.
En raison de ces connectivités, de ces chaînes.
Le fascia au complet. Exactement. Ouais.
Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. Ça reste vraiment à confirmer, par exemple. C'est pas prouvé de façon très, très scientifique. Et il y a plusieurs méthodes aussi qu'on pourrait le faire. Il y a plusieurs outils qu'on pourrait utiliser justement pour faire le relâchement myofascial. Tantôt, tu en as nommé un qu'on va reparler. Et pour finalement finir le résumé, j'ai une étude qui parlait justement de circulation sanguine locale qui serait améliorée. Mais ça, c'est vraiment pas...
Prouvé,
là. Ouais. Fait que ça pourrait être un facteur, mais c'est pas nécessairement prouvé. Justement, on parlait justement des outils ouais. à utiliser. Ben là, on les connaît. Hein. Il y a les balles, il y a les rouleaux, il y a même les fusils à massage qu'on parlait. Avant de nommer tous les outils, puis peut-être justement lequel est le mieux que l'autre, c'est quand qu'on devrait le faire? Ben je viens de le dire un petit peu. En fait, si je finis mon résumé, on a peut-être pré-musculation ouais. ou pré-activité qui pourrait être intéressant pour augmenter ton amplitude articulaire.
Ton amplitude,
oui. Peut-être diminuer ta sensation de douleur
ouais.
sur une région du corps qui pourrait être intéressante aussi. Après aussi, pour améliorer le DOMS ou le raquage musculaire, la ouais. perception du raquage musculaire. Donc, après l'activité, on parle de 10, 15 minutes après ou 5 minutes après, si tu veux. Et peut-être aussi, à long terme, il y a des études qui voyaient que ceux qui se roulaient plus souvent dans la semaine, ben, y avait des bons effets sur 5, sur 6, sur 7 semaines qui vont être améliorés en fait de significativement. Fait que si tu te roules un peu plus souvent, puis si on peut parler de soir, tu sais, vraiment en regardant TV récupération, comme il y a des gens qui s'étirent,
ouais.
Il y a des gens qui vont aller se rouler. Donc, tu aurais une amélioration de l'amplitude articulaire qui va être
sur le long terme
sur
aussi.
Sur le long terme aussi, plus tu vas le faire. Donc, tu pourras aussi le faire le soir en mode récupération. Donc, c'est peut-être ces trois moments-là où ça pourrait être pertinent de le faire. C'est sûr qu'il ne faut pas en abuser. Hein. Si tu le fais en récupération post-muscu, ben là, va pas refaire dans l'après-midi, puis le soir, tu sais, l'effet cumulatif, il sera pas là tant que ça. Il faut quand même laisser plusieurs heures entre les séances de relâchement myofascial, on va dire. Est-ce que, selon toi, l'outil que tu utilises, revenons aux outils, peut avoir une influence justement sur la qualité qui va ressortir de ça? As-tu plus d'amplitude articulaire en utilisant? Je vais t'en nommer un justement. Je suis sûr que tu as déjà vu ça, les foam rollers avec des spikes dessus.
Ouais.
Là.
Ouais.
Est-ce que tu as déjà expérimenté ça?
Oui, oui, j'en ai déjà acheté un sur Amazon. Oui,
ouais, puis...
pas vraiment de différence. Ça fait plus mal un petit peu.
Ouais, ça fait pas mal plus mal en fait, mais il n'y aurait pas vraiment de différence entre un rouleau lisse ou un rouleau à spike. La balle de la crosse peut être intéressante pour aller chercher des plus petits groupes musculaires. Fait que, dépendamment des régions qu'on va viser, on peut utiliser un objet différent. Mais l'objet qu'on utilise, mis à part cibler une région précise, n'aurait pas vraiment d'impact.
L'outil est plus utile. En fait, choisis l'outil en fonction de qu'est-ce que tu veux rouler.
Ouais, c'est ça, exact. Mais la texture en tant que telle n'aurait pas vraiment d'importance.
Peut-être la rigidité.
Ouais, la rigidité. C'est sûr que si tu prends les vieux rouleaux en mousse bleue, je sais pas si c'est de quoi je parle, qui s'aplatissent à moitié quand tu te mets dessus, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais on va parler de technique très rapidement après. Mais justement, peut-être que si tu es un débutant, c'est mieux. Puis les avancées peuvent prendre quelque chose de plus rigide un petit peu. Mais selon plusieurs évidences, la texture en tant que telle n'aurait pas vraiment d'impact. Les pistolets à massage, ça fonctionne-tu ou ça fonctionne pas?
Bonne question. C'est facile, c'est relaxant en tout cas.
C'est sûr que c'est moins demandant psychologiquement que de se rouler les quads devant la TV.
Ouais.
T'es juste assis sur ton cul et tu te roules ça, et tu te massages ça.
Mais j'imagine que t'as aussi, à te rouler sur un rouleau à terre, t'as aussi l'aspect flexibilité puis étirement qui rentre en ligne de compte.
Peut-être si tu prends des positions
là,
un peu plus.
Parce que là, c'est juste assis, puis tu te gonnes la cuisse.
Ouais.
T'es pas en train de t'étirer.
Mais si on met genre le côté, la position est plus flexible sur le rouleau.
Si on met ça à côté, je sais pas.
Non, en fait, c'est ça. Il y aurait beaucoup d'avantages sur le pistolet aussi. Okay. Justement, comme tu dis, l'aspect relaxant, mais il y a une méta-analyse qui est sortie justement récemment de SAMS de 2023 qui nous dit que l'amplitude articulaire est grandement améliorée aussi avec les pistolets à massage. Donc, on aurait cet effet-là et que même sur la force, il y aurait peut-être certains bénéfices. Justement, les gens qui vont faire le fusil à massage, on aurait peut-être des meilleurs résultats en force après. avoir fait ça. Donc, ça pourrait être intéressant. Ça reste à confirmer, mais comparé aux étirements, etc., ouais. Ben, il y aurait quand même une augmentation un petit peu de la performance qui pourrait être vue. Une diminution des douleurs musculaires, pré-entraînement, même chose que les rouleaux. Et le nombre d'expositions. Donc, plus on en fait, mieux c'est. Et comme je le disais tantôt, n'abusez pas. Si tu as mal au mollet, tu as une crampe au mollet puis il est bien tendu, ben, tu peux le rouler un petit peu. Mais
joue pas trop dessus. Là.
Abuse pas non plus. Ouais. Ça va pas l'améliorer. Donc, le pistolet à massage qui aurait des très bons résultats aussi pour le relâchement myofascial, vraiment intéressant. Si on fait le tour un petit peu des techniques rapidement, si vous avez jamais fait ça, puis là, ça vous allume une cloche, ben je vais commencer à faire ça, ça va être bon pour moi. Oui, absolument, mais commencez progressivement. Donc, la première étape serait de juste prendre, par exemple, une balle et de juste venir l'appuyer sur le muscle, peut-être faire des petites torsions avec, juste pour, tu sais, acclimater un peu ton muscle, puis pas te garrocher sur un rouleau à spike en partant. Ouais. C'est vraiment y aller progressivement. La deuxième, ben c'est justement, tu sais, d'optimiser ça, peut-être aller au sol, je parle du quadriceps, puis de faire une pression en mettant mon poids du corps dessus, en étant en planche d'ancrage sur le rouleau. Ensuite, on pourrait commencer à faire des petits allers-retours, mais pas comme on voit souvent dans les vidéos que le monde se swing avant en arrière. Tu passes du temps puis va lentement sur ton muscle. Ouais. Fais des allers-retours comme ça, 1 minute à 2 minutes, vraiment lentement. Et le dernier, ben, c'est de trouver un peu, comme on parlait des trigger points, des points de tension au début du podcast, ben, de trouver un peu ce point de tension-là, peu importe si ça existe ou pas.
Puis d'aller
si
jouer
tu
dessus.
Le sens, tu restes un peu plus dessus. Puis là, on appelle ça du pin and stretch, de bouger ton articulation. Ça, c'est la quatrième méthode la plus athlétique, on va dire. Fait que, mettons, je suis sur mon quad, je trouve un point de tension. Puis là, je vais faire des flexions-extensions du genou. Fait que je vais faire des talons-fesses en restant sur le point de tension jusqu'à ce que j'arrive à 2 minutes ou que je sente que la tension s'est diminuée un petit peu plus drastiquement. Voilà. Et il y a certaines contre-indications aussi, un petit disclaimer sur le relâchement myofascial. Il faut les faire, malheureusement, parce qu'il y a des gens qui vont penser que ça,
ouais,
ça peut se faire n'importe quand, n'importe où. Si tu as une blessure active, tantôt je te disais, tu as un gros claquage au mollet, peut-être pas une bonne idée d'aller jouer là-dedans, peut-être aller voir ton professionnel de la santé avant de commencer toute intervention qui va être prise par toi-même, en fait. Consulte avant pour les blessures qui sont actives. Deuxième disclaimer, si tu as, mettons, t'es bien tendu des quads, mais que c'est parce que tu as fait une chute à vélo et que ta peau est toute arrachée puis tu es en sang, bien sûr, essaye pas de rouler ça, ça va pas améliorer ton quad nécessairement. Et il y a des endroits du corps, troisième petit disclaimer, où c'est pas intéressant de faire du relâchement myofascial. Les os, tout ce qui est osseux, ça donne pas grand-chose de rouler ton os avec une balle de lacrosse, malheureusement, genre le coccyx.
À part faire mal.
Essaye d'éviter ça, direct sur la rotule, ça va pas le faire non plus. On vise un petit peu plus les muscles. Et dans certains disclaimers que je voyais dans des livres puis des trucs comme ça, ils disaient ne pas rouler la gorge, la traquer. Tu sais, roule. On dirait que c'est pas intéressant non plus.
On dirait.
Si tu souffres d'ostéoporose, peut-être consulter avant, justement. Tu sais, peut-être que c'est une petite fragilité aux os. De pas aller mettre des grosses pressions là-dessus, ça pourrait être bien aussi. Souvent, tu sais, des régions nerveuses qui vont. Tu sais, les gens, ils parlent souvent, ils ont une nerf sciatique bloquée. Va peut-être pas rouler ça. Tu sais, l'endroit où tu as une grosse tension nerveuse, c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Sur les côtes aussi, tu sais, il y a bien des endroits où c'est pas idéal de rouler. Donc, on se concentre.
C'est possible de garder ça. Fessiers, ischio, quad, mollets, lats.
Voilà, pour aller chercher le maximum de bénéfices. Et comme je le disais tantôt, les grosses masses musculaires ont plus d'influence sur l'amplitude articulaire de tes articulations. Fait que si, mettons, tu penses que rouler un petit muscle de la coiffe des rotateurs va avoir un immense impact sur la mobilité de l'épaule, ben peut-être moins que le pec et le grand dorsal parce que c'est des grosses masses musculaires qui peuvent en prendre versus un mini-muscle. C'est pas mauvais de le faire, mais si tu recherches l'augmentation de l'amplitude, le relâchement général, ben les grosses masses vont être plus importantes à ce niveau-là. Fait que à partir de maintenant, roule-toi.
Je vais le refaire. Je vais me remettre là-dessus.
Si tu as des gens qui ont... pour tous les professionnels de la santé, en fait, si vous pensez qu'il y a des gens qui bénéficieraient de ça, ben c'est quelque chose à prescrire quand même, mais avec, comme je le disais, certains bémols, certaines contre-indications.
Mais on s'entend que si tu fais ça intelligemment, il n'y a pas vraiment de problème. Là.
Non, c'est ça. Ouais. Comme je te dis, tu peux abuser. Là, si tu te roules 22 heures sur 24, probablement que tu vas créer des dommages.
Des problèmes que tu n'avais pas avant.
Mais sinon, tu sais, de le faire 1 à 2 minutes par jour, par groupe musculaire, ça va quand même améliorer beaucoup de facteurs. Performance et tension et peu importe. Voilà.
Très cool. Merci,
Salut. Ben.